Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nous sommes de retour, Quête Latérale, épisode 8, enfin après confinement, reconfinement et re-reconfinement, nous sommes enfin là pour parler de culture vidéoludique avec l'équipe habituelle, mais à distance, c'est pas grave, hein, ils sont toujours aussi sympathiques, vous les connaissez bien entendu, à commencer par Daz, bonjour Daz.
Bonjour Ken, bonjour l'équipe, comment ça va?
Ça, t'as changé depuis que t'es indépendant, Daz. Hein. T'es tout poli,
j'ai toujours dit bonjour, j'ai toujours demandé comment ça allait. T'inquiète pas, tu vas avoir de l'irrévérence dans ma chronique, l'âme. Accroche-toi à ton fauteuil de campeur, tu vas voir, ça va secouer.
Vous l'avez reconnu probablement, c'est l'âme qui est avec nous aussi ce soir. Bonjour, l'âme.
Bonjour à tout le monde, bonsoir. Comment ça va? J'ai fait un bonjour à la Daz.
Ça va.
Et platonique.
Formidable. Écoutez, ça va très bien, ça va très bien.
Avec nous ce soir aussi Chloé. Bonjour Chloé.
Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Oui, moi ça va très bien Chloé, merci de demander, ça fait toujours plaisir.
Exactement, il faut être poli les uns envers les autres.
Exactement, voilà, la bienveillance.
Bienveillance dans ces périodes difficiles, donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien.
Les gestes barrières contre les rageux, la bienveillance. Probablement le dernier, il est bienveillant lui aussi, c'est Fibre Tigre. Bonjour Fibre.
Eh bien, salut à tout le monde. J'ai une super forme, tout va bien. Et vous savez que moi, chaque podcast, c'est l'occasion de faire ma pub. Donc, ouais. Est-ce que Ken, je peux faire ma pub ou pas? Mon petit moment de fierté.
Alors, est-ce que
ou pas?
Le droit de répondre non.
Bah, tu sais, tu peux répondre non, next, et on passe.
Et il la fera quand même, de toute façon.
La chronique,
la pub quand même. Vas-y.
Non, j'ai gagné un prix de science-fiction jeudi pour un jeu vidéo que j'ai écrit. Un jeu vidéo textuel, donc le texte a encore un peu la banane. Et ce qui s'appelle Un monde meilleur, qui est aussi traduit en anglais, si vous voulez jouer. Et donc, c'est un jeu dans lequel vous avez l'histoire de l'humanité et vous pouvez faire des petits changements. Voilà. Et si vous aimez un peu la technicité des jeux à embranchement, c'est un jeu qui utilise des embranchements, mais qui utilise des embranchements éclatés, donc c'est pas tout à fait des embranchements. Voilà.
Mais félicitations, Fibre.
Et ça me fait plaisir, voilà.
C'est vraiment.
C'est ton machin où tu réécris l'histoire, là, c'est ça. Hein,
exactement, tout à fait. Prix de la science-fiction pour un truc qui s'appelle ActuSF, je suis très content.
Félicitations. Mais oui. Félicitations. Voilà.
Merci.
Félicitations.
Est-ce qu'il y avait un gros price cash ou cash
Alors,
prize,
y avait,
pardon?
Il y avait rien, mais je vous spoil un peu. L'Est républicain est un petit peu intéressé. Je pense que je risque de passer dans une toute petite colonne, genre un Barisien a reçu un prix de la science-fiction. Voilà.
Mais oui.
Et oui. Barisien.
Et oui, Barisien, c'est les habitants de Bar-le-Duc.
Ah, beau gosse.
Barisien.
Barigo, formidable. On te souhaite évidemment beaucoup d'autres titres dans ta carrière, Fibre, ce soir. Hein, tu vas nous parler évidemment des Open World. Il y aura 4 chroniques ce soir, 3 pauses et un podcast qui ne durera qu'1h20, bien entendu. Déjà, on y croit à mort. Et on va commencer tout de suite par la première chronique. C'est toi, Chloé, qui va nous parler des collectes de données. Souriez, vous êtes traqué.
Bah oui, on va commencer cette émission par peut-être la chronique la plus velue, celle qui risque de peut-être vous allez dire « Oh mon Dieu, les données, ça va être chiant ». Mais non, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant parce que ça vous concerne directement. Mais avant ça, pourquoi est-ce que j'ai l'idée de cette chronique? Bah déjà parce que ça correspond à la sortie des nouvelles consoles, mais aussi parce que pour le travail, j'ai eu la chance il y a quelques semaines d'interviewer l'universitaire américaine Shoshana Zuboff, qui a écrit un best-seller qui s'appelle L'âge du capitalisme de surveillance, et qui en gros est cité à peu près partout. Enfin, dès que vous avez un colloque, une tribune, n'importe quoi contre Google, Facebook, Amazon et compagnie, vous pouvez être sûr qu'elle va être citée dedans. Et en fait, ce qu'elle explique, cette universitaire, c'est comment les acteurs du web, ils se nourrissent de nos données. Alors, non pas celles qu'on donne explicitement, c'est-à-dire notre date de naissance, notre adresse, notre mail, etc., etc., mais plutôt les traces numériques qu'on laisse derrière nous, et ce qu'elle, elle appelle le surplus comportemental. Donc, dit plus clairement, c'est les sites que vous visitez, les liens sur lesquels vous cliquez, les pubs que vous ignorez, celles sur lesquelles vous vous penchez, mais aussi dans la vraie vie, si vous avez votre téléphone avec vous, les endroits où vous vous déplacez, les endroits où vous vous rendez, et bref, tout ce qui vous va permettre de deviner vos goûts, vos revenus, votre classe sociale.
Oh là,
et je cite Shoshana Zuboff dans une interview que j'ai fait d'elle pour Le Figaro, qui dit « Les gens doivent comprendre que le ciblage publicitaire n'est pas basé que sur les informations qu'ils donnent volontairement, mais aussi sur leur comportement. Il y a une énorme extraction de données dans l'ombre dont ils n'ont pas idée. On regarde par exemple la vitesse à laquelle vous marchez. On regarde sur les photos les expressions de votre visage. Ce sont des micro-signaux qui permettent de deviner vos émotions et de prédire un comportement. Ces signaux ne sont pas collectés uniquement pendant vos navigations sur Internet. Ils le sont aussi dans nos voitures, à la maison, au travail, via les smartphones ou les objets connectés. » Et on va vous dire, fin de citation, on va vous dire que toute cette collecte de données, c'est fait pour vous rendre des services, pour améliorer les services, pour vous offrir voilà, des nouvelles possibilités. Et par exemple, je me souviens encore quand mon père était totalement extatique le jour où son téléphone lui a dit « Demain, vous allez devoir prendre un avion. Donc, nous vous conseillons de partir de chez vous à telle heure et d'emprunter telle route pour arriver à l'heure à l'aéroport Charles de Gaulle. » Sachant qu'il n'avait strictement rien demandé. Il n'avait pas fait de recherche, rien du tout. C'est juste, c'était Google qui, en voyant par rapport à ses mails et connaissant sa localisation où est-ce qu'il habitait, lui a dit, on t'offre un service, voilà, demain, il va falloir que tu partes à telle heure de ta ville, que tu empruntes telle autoroute et que tu prennes ce chemin-là pour arriver les 2 ou 3 heures auparavant ton vol en toute quiétude. Donc, mon père avait trouvé ça absolument formidable, c'était de la magie. Moi, j'avais trouvé ça totalement flippant. Et en réalité, donc, on vous dit, OK, c'est pour vous rendre des services, mais la réalité, c'est aussi et surtout pour bâtir des profils socio-marketing plutôt fins qui va permettre de vous adresser des publicités. Et les données qu'on va collecter sur vous, elles vont être revendues souvent à des intermédiaires, donc qu'on va appeler des data brokers ou des courtiers en données, qui eux-mêmes vont aussi revendre encore à d'autres entreprises, qui vont revendre à d'autres entreprises, etc., etc. Et à la fin, ça fait, vous savez, dans votre boîte mail, vous avez souvent des newsletters ou des mails promotionnels d'entreprises dont vous n'avez jamais rien demandé et qui apparaissent quand même dans votre boîte mail. Et c'est marqué à la toute fin, si vous souhaitez être retiré de nos fichiers, merci d'appuyer, de cliquer sur tel lien. C'est un peu, la chaîne finale de côté publicitaire de toute cette chaîne de données.
C'est légal, tout ça ?
Mais oui. Alors, depuis que j'ai fait cette interview, que j'ai fait cette lecture, j'ai les oreilles qui se dressent dès que j'entends le terme « données comportementales ». Et là, on vient à notre chronique, parce que mes oreilles, elles se sont bien dressées lorsque j'ai fait la configuration de ma PlayStation 5 et de la Xbox Series X.
Maléfique.
Maléfique, ouais.
Je ne suis pas surpris.
C'est pas aussi horrible que ce à quoi je vous ai préparé, mais il faut quand même savoir ce qui se passe. Et on va pas jouer au naïf, en fait, depuis que nos consoles, elles sont connectées à Internet. On a besoin de se créer un compte pour les utiliser, il y a des données qui sont prélevées. De toute façon, partie du principe que dès que vous devez créer un compte pour utiliser un service, c'est que derrière, il y a une collecte de données. Mais sauf à lire des pages et des pages et des pages de conditions d'utilisation, cette pratique, elle était jusqu'à présent restée plutôt dans l'ombre et dans l'ignorance de consommateurs. Mais tout ça, ça a changé il y a quelques années avec une petite chose que vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données Personnelles, qui est une législation européenne, main sur le cœur. Et en fait, concrètement, bah, c'est quand vous vous rendez sur le site, vous savez, c'est le bandeau qui est un petit peu chiant et qui vous dit « j'autorise la collecte de mes données personnelles, oui, j'ai compris ».
Ça fait combien de temps, ça, question ?
Ça fait deux ans.
Pour moi, c'est... Ça fait deux ans, d'accord, ok.
Ça fait deux ans. Et donc, qui était, enfin, le but est honorable, c'est-à-dire que de nous prévenir qu'il va y avoir une collecte de données et de demander notre consentement. Mais dans les faits, c'est quand même très difficile de répondre non, parce que tout est fait en ordre, voilà, de manière à ce que vous cliquiez jamais sur non, pour, avec plein de petites techniques. Mais bon, comme c'est devenu maintenant une obligation de renseigner les gens sur le fait qu'il y a de la collecte de données, eh ben, quand vous configurez votre PlayStation 5 et votre Xbox pour la première fois, on vous en parle. Et on vous dit, on vous demande votre consentement, à ce qu'il y ait un prélèvement de données vous concernant. Donc ça reste, lorsque vous vous connectez la première fois, ça reste assez flou. Voilà, on vous dit, est-ce que j'autorise données limitées ou données complètes ? Voilà, vous savez pas trop. Ouais. Et si on veut en savoir un petit peu plus, il faut aller dans les options de la console, dans les paramètres de confidentialité. Et là, vous comprenez un petit peu plus ce qui se passe. Et là, pour cette chronique, je vais prendre l'exemple de Sony, car j'ai parcouru exactement tout ce qui est... Oui, j'ai tout lu, mais c'est assez court, hein, au final. J'ai tout lu. J'ai regardé tout à l'heure pour Microsoft sur la Xbox. Alors, autant quand j'ai reçu la console, je crois que tout n'était pas encore en ordre, il y avait quasiment rien. Là, ça y est, maintenant, ils ont vraiment un truc assez complet. Donc, les textes sont à peu près les mêmes, même si je trouve que chez Sony, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus complet. Mais chez Microsoft également, si vous allez dans vos options, vos paramètres de confidentialité, et vous cliquez sur « En savoir plus », il vous explique assez bien ce qui se passe. Mais donc, pour vous, j'ai lu le texte de Sony. Qu'est-ce qui est prélevé, qu'est-ce qui n'est pas prélevé, et quels sont en gros les choix que vous pouvez faire. Donc, on va commencer par ce que vous êtes obligé de livrer. C'est ce qu'ils appellent, eux, des données de base, que moi, j'appellerais des données de bon fonctionnement. Grosso modo, c'est l'identifiant de la console, c'est votre adresse IP, c'est vérifier que vous avez bien les licences pour lancer tel jeu. Quand vous lancez une chanson sur Spotify, et ben voilà, il y a un petit identifiant pour que l'artiste il ait droit à son petit revenu derrière. Ça permet de détecter les activités frauduleuses. Ça permet de vérifier que vous avez bien les autorisations pour jouer en ligne, pour se connecter au serveur des jeux. Mais aussi, c'est marqué consultation, clic et impression des pages publicitaires. Donc on va voir si les pubs parce qu'il y a un petit peu de pubs, hein, on s'en rend pas forcément compte sur le dashboard de la PS5. Vous pouvez avoir des il y a des pubs pour vous conseiller genre hey, tel jeu est sorti, ah oh, telle démo est disponible, ah oh, ce service tu le connais, ce serait bien que tu y jettes un petit œil dans le PSN. Et dans PlayStation Store également, vous avez aussi des emplacements qui sont sponsorisés, qui sont payés pour que ce soit mis devant vos yeux. Donc tout ça, c'est de la publicité. Et donc la console va regarder si vous voyez cette publicité, enfin si vous passez dessus, si vous cliquez dessus, bref, si elle a une efficacité. Donc ça, c'est vous n'avez pas le choix parce que c'est pour permettre, donc hormis ce côté publicitaire, c'est surtout pour permettre le bon fonctionnement de la console, pour vérifier s'il y a des pannes, voir s'il y a des soucis, etc., etc. Là, on va vous demander votre autorisation, c'est ce qu'ils appellent chez PlayStation les données complètes. Et là, j'ai envie de dire, c'est un peu un tacos 4 viandes, tellement c'est un peu la fiesta sur les données collectées. Et l'idée générale, en fait, c'est de regarder ce que vous faites sur votre PlayStation 5. Donc, on va diviser ça en deux. Donc, on va dire la première couche, donc c'est la couche, on va dire, d'un des poulets. C'est dans le tacos 4 viandes, c'est de voir, alors, ce qui me paraît gentil, plutôt pour la bonne cause, c'est de voir quel est votre comportement au sein d'un jeu vidéo. Donc, je m'explique, c'est une sorte de playtest à l'échelle mondiale. Ça permet de générer des statistiques anonymes pour les développeurs. Et là, je cite toujours Sony, c'est la façon dont vous utilisez l'interface utilisateur, les parties des niveaux que vous visitez, les armes que vous utilisez, ou les PNJ avec qui vous interagissez, etc., etc. Donc tout ça, ces données vont être agrégées parmi tous les joueurs qui jouent au même jeu pour filer des statistiques aux développeurs. Donc ça va permettre de leur dire, seulement 10% des joueurs sont allés jusqu'au bout de mon jeu. Ou, en moyenne, les joueurs ont abandonné à tel moment du jeu. Donc, signe qu'il y a peut-être un souci. Un souci d'équilibrage, un souci de quête, n'importe quoi. Mais bon, ce qui fait que c'est le moment où les gens décrochent le plus. Ce qui va permettre, lors de mise à jour, par exemple, de rééquilibrer les choses ou juste pour le prochain jeu, savoir que bah, en fait, ça marche pas du tout et ça va peut-être servir pour une prochaine production. Donc, ces données-là qui sont prélevées de la console, de votre partie, elles sont transmises aux éditeurs de jeux. Et voyons donc ce qu'en dit Ubisoft dans sa fac sur les données personnelles. Donc, pareil, je cite. « Nous pouvons collecter, par exemple, votre âge, votre pays, votre pseudonyme, votre adresse email, qui sont renseignées sur vos consoles, pour simplifier la création du compte. Mais nous collectons aussi des données transmises par les fabricants de consoles, comme par exemple votre identifiant, vos données de jeu, ainsi que les données liées aux bugs et aux dysfonctionnements éventuels. » Parce que c'est ça aussi qui permet aux équipes de développement de voir s'il y a un souci, s'il y a des bugs, etc., et d'agir au plus vite pour faire des correctifs. Et aussi, alors, j'en profite pour parler des comptes Uplay, des comptes Ubisoft, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout. Vous pouvez également, quand vous avez un compte Ubisoft, vous pouvez également régler le degré de données qui vont être transmises, car vos données peuvent être partagées avec une sélection de partenaires pour afficher sur leur site internet et ceux de leurs partenaires, encore des partenaires de partenaires, des publicités personnalisées d'Ubisoft correspondant à vos correspondances de jeu. Ces partenaires peuvent réutiliser vos données pour leur propre compte ou celui de leurs partenaires. Enfin bref, c'est encore des partenaires de partenaires de partenaires. Donc c'est ce qui va vous permettre, grosso modo, d'avoir de la publicité ciblée Ubisoft quand vous traînez sur Internet. Mais bon, ça, parenthèse fermée. J'en ouvre une autre. Il m'est arrivé un truc très bizarre. Quand je joue à Assassin's Creed Valhalla sur ma Xbox.
Ouais.
Et on m'a proposé de lancer mon compte Ubisoft. Je dis ok, sauf que mon compte Ubisoft, la dernière fois que je m'en suis servi, c'était il y a des années. J'ai dit putain, mais je me souviendrai jamais quel est le mot de passe. Et sachant que ce compte Ubisoft, je l'ai ouvert en 2013, donc chez Sony. Ah. Et ben par un mystère, je n'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible. Mais je n'ai pas eu besoin de rentrer mon mot de passe ou de rechercher mon mot de passe. Il m'a connecté automatiquement.
Mais non.
Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je cherche, je ne comprends pas.
Par les boîtes mail.
Je sais pas. Je ne sais pas. Non, parce que même ma boîte mail, mon compte Ubisoft est renseigné vers Gmail, alors que Microsoft c'est Hotmail.
Oh putain.
Donc bref, je ne sais pas par quelle sorcellerie ils ont réussi à me connecter automatiquement à mon compte Ubisoft. Je ne sais pas. Bref, deuxième parenthèse.
T'avais déjà trouvé le ventilo de la PS5 avant tout le monde, et là, bientôt, c'est toi qui vas trouver le prochain drama de la next-gen.
Non, mais je ne sais pas. J'ai essayé de trouver comment, par quel biais ça, c'est possible. Je ne sais pas.
Les adresses de récupération.
Ouais, peut-être. Peut-être.
Très étrange. Bon.
En tout cas, votre comportement en jeu, ça, c'est la couche d'un de poulet du tacos. La deuxième couche, donc bœuf agneau. ça va être votre comportement sur le PlayStation Store. Donc, ce que Sony va regarder, c'est sur le PlayStation Store, qu'est-ce que vous achetez comme jeu ? Quelles sont les fiches que vous consultez de jeux ? Les fiches de jeux que vous consultez mais que vous n'achetez pas, ou vous mettez peut-être en favori, ou vous passez sans rien faire ? Quelles sont les sections au sein du PlayStation Store que vous consultez ? Bref, tout est fait pour, je cite, vous proposez du contenu ciblé et personnalisé, comme de la publicité, des recommandations commerciales ou des communications marketing. Donc, grosso modo, on va voir par rapport à moi ce que je fais sur le PlayStation Store, si je suis plutôt du genre à jouer à FIFA ou si je suis plutôt du genre à jouer à des jeux indépendants. Donc on va un peu dresser un petit profil de mes goûts pour après me proposer, me mettre en avant le contenu qui est le plus adapté à mes goûts. Et au final, je cite toujours Sony, il s'agit de, je cite, mieux cerner les goûts et les attentes de nos clients afin d'améliorer nos jeux et nos produits.
Évidemment.
Et sachant que Sony aussi peut mélanger à tout ça les données personnelles que vous avez données sur votre compte PlayStation Network au fil des années. Donc, par exemple, votre sexe et votre âge. Donc moi j'ai vérifié, en fait j'avais juste, je crois qu'ils ont juste ma date de naissance, mais mon sexe j'ai jamais renseigné. Donc voilà, ils ne savent pas, ils n'ont pas plus de renseignements sur moi hormis mon âge. Et ça, alors j'en avais un petit peu discuté parce que j'ai interviewé Jim Ryan il y a 15 jours à peu près pour le lancement de PlayStation 5, justement sur ce volet prélèvement des données pour voir un peu quels sont les comportements des gens avec la PlayStation. Et donc il disait bah oui, ça a servi aussi à concevoir l'UX de la PlayStation 5. En voyant un peu ce qui marche, ce qui marche pas, là où les gens vont, ce qu'ils recherchent, ce qu'ils attendent comme type de contenu, enfin bref, tout ça est analysé, secoué dans tous les sens pour faire en sorte d'avoir un produit qui fonctionne bien.
C'est le bon côté des choses.
Ça, c'est le bon côté des choses. C'est le bon côté des choses. Alors aussi un autre truc qu'il faut que vous regardiez sur votre PlayStation 5, c'est qu'il y a un micro qui est inclus dans votre manette.
Ah ouais. Alors ça, vraiment, on nous écoute ou pas?
Alors, ce qu'ils disent. C'est que tu peux donner l'autorisation pour que tes données vocales soient exploitées. Donc, les données vocales, ils expliquent que ce ne sera pas pendant les chats vocaux, ce ne sera pas pendant tes parties, mais c'est quand tu utilises le micro de la manette pour faire de la saisie vocale. Donc, au lieu de
normal,
taper,
quoi.
Voilà, au lieu de taper avec péniblement sur le clavier virtuel, de taper des choses, et ben tu vas utiliser, parce qu'il y a un système de reconnaissance vocale, tu vas passer par le micro de Sony pour saisir une commande bien précise. Donc voilà, donc ils disent ils prélèvent des données vocales pour améliorer la reconnaissance vocale, pour améliorer la transcription de chat, parce qu'il y a aussi un outil qui permet de, au lieu pareil d'écrire, de saisir par écrit ce que tu veux dire dans le chat d'un jeu, dans les jeux qui sont compatibles, et ben en fait tu vas le dire à l'oral et ça va retranscrire à l'écrit automatiquement. Donc ils te demandent est-ce que t'es ok ou pas. Alors de base ils disent que oui tu es ok. Donc si vous voulez pas, c'est toujours dans les options de paramètres de confidentialité, vous dites non, je ne souhaite pas que mes données vocales soient exploitées dans le but d'entraîner une intelligence artificielle qui va être plus à même de reconnaître les différents accents français, les gens qui mâchent leurs mots, etc., etc., enfin, pour faire en sorte que la saisie vocale soit la plus précise possible. Bref, tout ça, c'est ce qui se dit sur du côté de la PlayStation. J'ai regardé tout à l'heure chez Microsoft, bon, c'est à peu près pareil, hein. Mais c'est, alors il y a évidemment il n'y a pas le côté du micro parce qu'il n'y a pas de micro dans leur manette. Et j'ai trouvé que les textes étaient un chouille moins complets et que voilà, on vous renvoyait assez facilement vers les conditions des éditeurs tiers, parce que c'est la petite sauce barbecue par-dessus. C'est que chaque éditeur, donc là j'ai parlé d'Ubisoft, mais par exemple c'est quand vous jouez à Destiny, si vous avez des jeux EA, enfin en grosso modo tous les jeux qui vont vous demander ou qui vont vous inciter à créer un compte, et ben là aussi, c'est aussi pour prélever des données supplémentaires vous concernant. Donc, que ce soit pour analyser le jeu, ou après aussi à des fins marketing, à des fins publicitaires, grosso modo, c'est des données qui vont être revendues à des courtiers en données qui eux-mêmes vont les revendre, etc., etc. Enfin bref, tout ça nourrit la grande machine de la publicité sur Internet. Et je voulais aussi vous parler justement, en parlant de cette publicité. L'autre jour, j'ai suivi un webinaire qui parlait de l'advertising, donc de la publicité dans les jeux vidéo. Et là, c'était spécifiquement sur la publicité dans les jeux consoles. Et il y avait quelqu'un de Xbox qui était là pour expliquer grosso modo que, bah, en fait, c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte, mais sur le dashboard de la Xbox, il y a de la publicité. C'est sur tout premier écran, donc très souvent c'est de la publicité pour un jeu, mais ça peut être de la publicité pour Domino's Pizza, pour McDo, pour un film. Donc là il c'était un exemple, Birds of Prey, ils avaient fait une OP sur la Xbox. Et pareil sur le Microsoft Store, vous avez aussi, bah, pareil, des, comme sur le PSN, vous avez aussi des emplacements qui sont sponsorisés.
Et maintenant aussi.
Oui.
Quand on vient de démarrer, il faut avoir des suggestions d'app dans Windows 10.
Exactement. Donc tout ça, en fait, ces suggestions, bah, sont nourries de votre comportement. Et là, dans ce webinaire, alors, ils disaient pas, c'était jamais dit que la publicité qui était mise en avant, c'était spécifiquement liée, elle était personnalisée, elle était liée à notre profil. Mais par exemple, ce qu'on voyait, c'est que en fait, les données qu'ils prélevaient sur quel était le sexe, quel était l'âge, etc. de leur joueur, ça leur permettait de dire en face aux publicitaires, voilà, chez nous, chez Xbox, on a X milliers de personnes qui utilisent chaque mois la console. en moyenne, ils ont tel âge. Enfin, genre, on a, je vous dis des chiffres au hasard, je les ai plus en tête, mais genre, on a 25% de personnes qui ont plus de 30 ans. On a 20% de personnes qui sont susceptibles de gagner un revenu supérieur au revenu médian français, etc., etc. Donc, c'est pour les inciter, pour dire, regardez, chez nous, on a quand même des profils plutôt premium, des gens qui ont de l'argent. Donc, ce serait bien que, enfin, si vous mettez de la publicité devant leurs yeux, ils vont la regarder. Donc, tout ça, tout ce très, très long développement pour vous dire que, OK, on peut dire, on s'en fout, c'est pas très grave. Et que oui, on peut prélever des données dans tous les sens. De toute manière, c'est pour le bien, c'est pour améliorer les services, c'est pour avoir des contenus qui vont nous correspondre. Vous voyez, moi par exemple, j'ai tout fermé au niveau du contenu personnalisé, ce qui fait que ma PlayStation 5 n'arrête pas à me mettre des suggestions pour Fortnite. Donc, je suis obligée de subir toutes ces propositions pour Fortnite alors que je n'ai aucune envie de jouer à Fortnite. Mais voilà, c'est mon choix, c'est ma croix, c'est la croix que j'ai portée pendant plusieurs années. Mais bon, j'ai choisi de ne pas livrer les données complètes. Mais en fait, le plus important, je pense pour moi, c'est qu'on soit conscient de ce qui se passe. Et c'est pour ça que je trouve ça extrêmement bien, même si en fait ils sont contraints par la loi, mais c'est très bien que toutes ces questions-là soient mises sous les yeux des gens dès l'allumage de la console, dès la première fois qu'ils la configurent, pour qu'ils, même s'ils vont peut-être cliquer très vite sur genre « oui, je file tout, on s'en fout », voilà, peut-être que ça va donner envie de fouiller un petit peu plus et de prendre surtout, ce qui est le but de cette loi, une décision éclairée sur est-ce que je le souhaite ou pas transmettre mes données comportementales. Et je vous ajoute un petit bonus track. Donc ça va être le petit verre de Coca pour terminer ce tacos. Donc toujours chez Ubisoft, vous pouvez demander une restitution de vos données. Donc c'est pareil chez Facebook, vous pouvez faire la même chose, chez Twitter, etc. Vous pouvez demander un fichier zip qui contient vos informations, les informations qu'ils ont sur vous. Alors, je vous le dis tout de suite, j'étais assez déçue parce que j'ai récolté, parce que déjà c'était dans des fichiers Excel qui étaient genre illisibles et les informations étaient très très parcellaires. Grosso modo, j'ai retrouvé les jeux Ubisoft auxquels j'ai joué ces 7 dernières années, avec la date de ma première utilisation et la date de ma dernière utilisation. Et donc sur quelle console j'étais connectée. Mes données personnelles étaient très limitées. Il y avait mon mail, normal, mon pays, ok. Une date de naissance qui n'était pas la bonne. C'était la bonne année, mais c'était pas le bon jour et le bon mois. La date de création de mon compte Ubisoft, donc qui était le 31 octobre 2013. Et des données dont je ne sais que faire, par exemple mon tracking profile ID. Donc je ne peux rien faire, mais grosso modo c'est mon numéro d'identification dans leur système et qui permet après j'imagine de faire de la publicité ciblée. Et voilà, ce que je sais aussi c'est que Ubisoft me suit entre guillemets sur le PSN, sur le Xbox Live et évidemment sur mon compte Uplay. Donc j'étais quand même assez déçue parce que j'ai trouvé, je pensais waouh, est-ce que j'ai trouvé des trucs assez dingues dans tout ce que Ubi a pu collecter sur moi ces dernières années, mais en réalité c'était quand même un peu décevant.
C'est pas Facebook quoi.
C'est pas Facebook.
Non, c'est pas Facebook. À Facebook, quand tu demandes tes archives personnelles, ça mouline pendant plusieurs heures et là t'as vraiment tout. T'as tout ce que t'as pu publier sur les 10 dernières années.
La manière, tes temps de réaction, ton mood, en fait, aussi qu'ils arrivent à...
Je sais pas s'ils te le donnent, ça. Hein. Je crois que c'est vraiment le contenu que tu postes.
Oui, c'est le contenu.
Mais toutes les analyses qui sont faites autour de ça, ils te le donnent pas. Hein.
Non, ils te donnent pas.
C'est les apps qui viennent piocher dans ces trucs-là, en fait, effectivement. Ouais. Mm. Et dis donc. C'est vrai que moi, j'ai eu ma PlayStation et j'ai eu les mêmes choix que toi, Chloé. J'ai fait les mêmes choix que toi.
Ça t'a dérangé l'âme ou pas?
En fait, j'ai trouvé ça pas mal parce que effectivement, c'est en général, il y a le fameux genre oui, j'ai lu les CGU parce que effectivement, exactement comme dit Chloé très justement, tu sais, t'as envie de jouer, t'as envie de profiter de ton produit ou de ton app ou de ton jeu. Donc, tu sais, souvent quand on est devant les conditions d'utilisation, les partages et les machins, on est toujours genre ouais. Et là, en fait, en gros, et j'ai trouvé de manière presque lisible, la PlayStation, c'était genre, il y avait deux grosses cases, et je veux tout fournir à PlayStation ou je veux limiter ce que j'envoie à PlayStation. Je trouvais ça presque clair, en fait.
Ouais, moi j'ai trouvé ça très très clair.
C'est vrai que plus que jamais, je donne des autres tous les appareils de ta vie, quoi.
Il y a avec la Xbox Series X, ils ont étendu le Game Pass à Electronic Arts, et j'ai découvert que à chaque fois que tu télécharges un jeu Electronic Arts, tu as un contrat ultra long à lire et à signer.
Non.
Et c'est un truc assez, chaque jeu Electronic Arts, t'as un contrat différent. Même BG World, hein, auquel je joue d'ailleurs. Et donc, ça m'a inspiré un tweet que j'avais fait à l'époque. C'était, je discute avec moi-même qui a 12 ans. Et il me demande, dis-moi, ils sont comment les jeux vidéo du futur? Et je dis, on signe électroniquement un document légal avant chaque partie. Alors je dis, comme dans Running Man. Alors je dis, ouais. Et est-ce qu'on peut aussi planter notre stylo dans le dos du juriste? Écoute, c'est le futur, c'est pas tout à fait comme on veut. Mais c'est effectivement, on vend son âme parce que le contrat, il a aussi ça de pervers. Et ça, il faut quand même le dire, qu'il est trop long pour qu'on puisse le lire, et s'il était de bonne foi, il nous dirait on fait ça.
Ouais.
Et alors on a juste un truc avant que je vous laisse la parole. Ça aide quand même beaucoup la recherche dans le jeu vidéo, parce que faire un jeu vidéo, c'est pas évident. C'est un secteur où il y a pas, tu vois, quand tu fais un jeu vidéo, en général tu copies sur ce qui a déjà été fait avant et tu essaies de faire différent, mais c'est quand même une grosse prise de risque. Et j'ai assisté à une conférence Ubisoft à la Casual Connect notamment, où ils avaient fait un Assassin's Creed sur iPhone, et ils s'étaient aperçus que le personnage, on a choisi entre trois profils de personnages, et il y en a un qui s'appelle Trickster, qui est vraiment le plus chelou. C'est celui que tout le monde prenait, genre à 95%, et ils comprenaient pas pourquoi, tu vois, parce que et pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, ils voulaient jouer le plus rapidement possible, et c'était le personnage le plus au milieu, tu vois. Donc, ils cliquaient au milieu de leur téléphone pour aller, allez, je vais jouer. Et ils se sont aperçus qu'en fait, faire des profils de héros, c'était pas du tout intéressant, et ils ont arrêté de faire ça par la suite. Et on a maintenant par exemple, dans Valhalla, un arbre technologique, par exemple. Et ça, en fait, c'est des mini tricks que, sans collecte des données de façon anonyme, et que finalement qui sont pas préjudiciables à votre on n'espionne pas votre vie privée, sont ultra utiles, quoi.
Ouais, ça c'est extrêmement utile. Ben ça c'était la première couche du tacos. Tu vois, je reconnais sans problème. Enfin, pour moi c'est ok. Enfin, tu vois que ça sert énormément aux développeurs derrière. Donc ça c'est très bien. Moi, ce que je trouve un peu plus gênant, c'est qu'on mélange ça avec à côté. Ah oui, puis aussi on regarde votre comportement publicitaire. Enfin, on mélange un peu deux choses très différentes, et tu peux pas dire, ok, je suis d'accord pour filer tous les renseignements sur mon comportement en jeu, mais non, par contre, que ça serve à faire de la publicité derrière, je veux pas. En fait, tu peux pas faire ce choix-là.
Je pense que le cas que tu prenais, qui était les métriques in-game, moi je me rappelle qu'on avait j'avais discuté avec une pote qui bosse chez Rockstar et qui est data scientist là-bas, et qui nous expliquait que sur GTA, c'était GTA 5 déjà, parce qu'en même temps GTA 5 ça fait juste 8 ans qu'il est là, donc sur GTA 5 elle était capable de nous dire qui tuait qui, à quel endroit de la map, avec quelle arme, à quel ratio, etc. Et eux, effectivement, c'est une mine d'or. Et c'est des trucs qui existent depuis 10 piges, en fait. En gros, depuis que les jeux sont connectés. Et c'est pour ça que là, Sony, en fait, tu vois, si tu joues à un GTA sur PS5, et tu vas jouer à GTA 5 sur PS5, il y a très forte chance, je pense pas que la couche Sony remplace la couche Rockstar. C'est-à-dire qu'au final, tu vois, Rockstar, quand tu joues à leur jeu, tu te connectes sur leur serveur aussi. Donc,
Ouais, parce que, en fait, t'as une double couche. T'as Sony qui va donner des données à Rockstar, et après t'as Rockstar, vu que tu as un compte Rockstar Club, qui va prélever ses propres données. Et sur le cas de Microsoft, c'est écrit noir sur blanc, c'était: si vous ne souhaitez pas qu'un éditeur prélève des données vous concernant, vous devez désinstaller totalement le jeu de votre console.
Ça. En fait, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Et je pense aussi que Sony et Microsoft, donc là, clairement, hein, ce qu'on comprend maintenant, c'est que les consoles sont devenues comme les smartphones, comme les assistants vocaux, comme tous ces trucs-là. C'est-à-dire que...
C'est devenu un objet connecté. Hein.
Voilà, tout est connecté. Et en fait, clairement, je pense que là, Sony comme Microsoft ratissent méga large volontairement pour pas avoir besoin de faire des changements de conditions, si jamais dans un futur proche, puisque on sait que les consoles, en fait, le cycle de vie, c'est à peu près 7 ans. Quand même, il se peut que, tu vois, en 2022 ou en 2024, t'es un nouveau réseau social qui s'appuie exclusivement sur les machines de jeu, et en fait, par le biais des CGU que vous avez déjà validés au lancement de la console aujourd'hui, qui sont très très larges, ça leur permet, eux, de pas avoir à s'emmerder ensuite à refaire une ronde juridique pour vérifier que les futurs comportements devraient être sanctionnés par des nouvelles conditions générales d'utilisation, en fait.
C'est-à-dire que là...
C'est confortable. On dit jamais non, de toute façon.
Ben voilà, c'est ça. En fait, en gros, tout ce que vous donnez là, ça veut pas dire que, effectivement, dès maintenant, Sony va s'en servir. Par contre, en fait, les mecs, ils se protègent pour plus tard. Concrètement.
Alors, juste plusieurs questions. Déjà, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de jouer hors connexion à nos jeux vidéo? Est-ce que c'est possible?
Alors, j'ai fait l'expérience involontaire, notamment sur Assassin Valhalla. Tu es obligé d'être en ligne pour jouer.
D'accord.
Parce que il faut, enfin, alors je l'ai vu à l'insu de mon plein gré. Je sais pas si vous vous souvenez, le jour du lancement de la Xbox Series X, le Xbox Live est tombé. Donc je ne pouvais pas me connecter à mon compte Xbox Live et du coup je ne pouvais pas lancer le jeu.
Vous vous rappelez quand c'était un scandale ça ou pas?
Ouais.
Parce que moi je me rappelle distinctement de la campagne de financement d'Elite Dangerous quand donc Elite qui est majoritairement un jeu solo historiquement, quand les gens ont dit que même en solo en fait il fallait être connecté, il y a eu une levée de boucliers, non mais c'est une trahison. Et en fait les gens expliquaient bah oui mais c'est pour que la background simulation elle puisse continuer à tourner pendant que vous jouez tout seul. Il faut bien que l'univers il soit un petit peu tenu informé des faits et gestes pour que justement tous les trucs se mettent en place correctement pour tout le monde en fait et que ça soit qu'il y ait vraiment une vie dans l'univers. Mais je me rappelle que ça avait provoqué des demandes de remboursement du Kickstarter et tout plein de trucs comme ça. Et au final on est là en 2020 et c'est normal quoi. T'as une console chez toi. Et tu vois, tu peux pas l'emmener, tu peux pas jouer dans un Airbnb si t'as pas internet pour un week-end.
Un PC, hein. Blizzard était parmi les premiers à avoir ces fameux connectés sur ces jeux. Ouais. Des joueurs et puis.
Ils se sont pas foutus de ta gueule parce que leur interface s'appelle BattleNet.
Oui.
tu dis bon. Tu comprends. Voilà, c'est il y a un réseau, tu vois.
Mais il y a 7 ans, il y avait une marque qui s'était fait casser du sucre sur le dos parce qu'elle imposait la connexion obligatoire pour ses consoles. Hein. Cette marque, c'était la Xbox. Outre d'autres problèmes de la Xbox One, 7 ans plus tard, ça paraît pas énorme. Tu vois, ça fait 7 générations d'iPhone. Donc, l'iPhone, tu l'as déjà changé à l'époque. Hein. Mais, on ne lutte plus du tout. Puis
Les consoles sont connectées en fait et c'est quelque chose qui a complètement été accepté finalement, tu vois.
Ce qui m'en vient à ma deuxième question, du coup, est-ce que vous préférez une interface de votre console de jeu où les suggestions de jeu sont ciblées ou une interface où c'est le chaos absolu et vous ne voulez voir que ce que vous allez chercher?
Alors, je réponds pendant que les autres réfléchissent parce que moi, personnellement, j'ai vécu ça. C'est-à-dire que moi, j'étais beaucoup... j'ai pas de problème à me faire espionner. Et je fais confiance. C'est-à-dire que moi, j'aime bien ce monde où je dis poussette de bébé et tout d'un coup, j'ai des posts Instagram et des Amazon, des pubs Amazon tout d'un coup pour des poussettes de bébé. Tu vois, je trouve ça mignon, c'est un peu de la magie. Voilà. Et,
c'est et comme donc, mon père.
Voilà, non, moi, j'aime bien. Et, effectivement, je joue beaucoup à des open world blockbuster. Et effectivement, on ne me suggérait que ça en jeu vidéo. Et je suis passé à côté, par exemple, je suis passé à côté de Subnautica très longtemps parce que il était dans le Game Pass, mais je l'ai pas vu parce que on m'en parlait pas, tu vois. Et effectivement, on m'a mis, j'ai à cause de ça, à cause des suggestions, je vais pas dire ah non, je veux découvrir, je veux chiner les petits jeux rares, tout ça. Mais ouais, il y a des très bons jeux auxquels je suis pas passé. Et je pense que c'est donc imparfait parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeux bien dans tous les genres et c'est con de dire tiens, on en a parlé de toute façon, c'était ma chronique la dernière fois. Tiens, t'aimes les hack and slash, je vais te donner des hack and slash. Bon, c'est dommage.
Si tu ne fais pas une mise en avant pour que t'en entendes parler, t'en entends pas parler parce qu'elle correspond pas à ton spectre de jeu habituel.
Voilà.
Décrivez, c'est ce qu'on appelle les bulles de filtre.
Complètement.
Et qui sont entretenues par les algorithmes de recommandation et donc qui vont vous recommander que des choses que vous aimez déjà, qui vont pas vous sortir de votre zone de confort.
Moi, pour répondre à la question, j'ai pas de problème à demander du contenu personnalisé quand je suis sur une plateforme qui a une seule vocation. tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, je joue, donc la plateforme, c'est du jeu vidéo, que la plateforme me conseille des trucs, bah, c'est comme quand j'écoute Spotify et que Spotify me conseille des trucs à écouter, en fait. Ça me pose pas de problème. Là où je vais plutôt désactiver ce genre de trucs, c'est quand je suis sur Twitter, qui est fondamentalement divers et varié, et où là, effectivement, on me dit, est-ce que tu veux qu'on te donne qu'on te fasse apparaître des trucs promotionnels qui correspondent à tes usages, et je dis, bah non, en fait, donne-moi le standard, parce que je m'en branle, tu vois. Parce que justement, là, c'est un truc qui n'est plus monolithique. C'est pas juste je joue à des jeux vidéo. C'est je discute, j'explore, je machin. Et donc, effectivement, là, dans ce cas-là, je préfère avoir le truc standard qu'un machin qui est tailor-made. Mais pour du jeu, de la musique ou du film, ouais, vas-y, balance-moi des trucs qui correspondent à ma conso. Ça me dérange pas du tout, quoi.
D'accord. L'âme, toi, t'es plutôt sensible à ce genre de sujet-là. Qu'est-ce que tu préfères?
Je suis assez sensible, donc moi, je veux rien partager. Donc, quand j'ai pas la flemme et que je débarque sur un site, je refuse toutes les autorisations et le tracking, parce que de toute façon, globalement, la pub me casse les couilles, même quand elle est ciblée. Donc voilà. Mais après, il y a des fois où j'ai envie qu'on reconnaisse mon choix, et notamment quand je choisis la langue d'un jeu. Je mets souvent le français parce que dans ma tête, je me dis, ça fera avancer les stats du français dans les stats des développeurs de Steam. Et je me dis, du coup, plus il y a d'utilisateurs français et plus, je sais pas, ce sera mieux pour nous que les gens voient que la France est un territoire de jeu. Donc, c'est marrant. Il y a des fois, j'ai envie de répondre
aux informations,
de montrer qui je suis, d'où je joue, quelle est ma langue, mes préférences. Et il y a des fois où j'ai envie qu'on me lâche le cul et que même si c'est des pubs qui me touchent pas exactement, je m'en fous parce que même les pubs qui sont censées me toucher à 95% du temps, elles me cassent les couilles aussi. Donc
J'espère qu'il restera quand même des jeux qu'on pourra jouer hors ligne parce que ça...
Non, mais c'est mort.
Ça devient dur.
Ça devient dur, mais tu vois, enfin, je t'avoue, pour Assassin, j'ai été surprise parce que pour moi, tu vois, c'était un jeu offline et que j'avais pas besoin d'être impérativement connecté à mon compte Xbox Live pour pouvoir lancer le jeu. Eh ben, si. Donc, ça a été, mais tu vois, en fait, vu que nos consoles maintenant, elles sont branchées H24, en fait, c'est un truc dont on se rend même plus compte que, bah, pour certains jeux, on est obligé d'être connecté parce que, tu vois, il nous dit pas explicitement, genre, oh, vérification de votre connexion à Internet, etc.
Si, enfin, il te le dit au début.
Mais pas...
Tu sais, c'est une petite icône qui tourne, c'est un petit machin, mais.
Ouais, mais tu vois, c'est pas écrit, direct sur ton front. Tu vois, sur le Assassin, c'est juste marqué, genre, bon, quand j'ai pas de problème d'Internet, enfin, quand il y a pas le Xbox Live qui crash, c'est marqué, genre, donc il y a mon gamer tag et c'est marqué, genre, si ce n'est pas votre profil, appuyez sur Y pour changer de profil. Et voilà, le jeu se lance, roule ma poule, quoi. Et tu te dis pas, ah oui, en fait, je suis connecté à Internet. Et c'est ce qui va permettre au compte d'Ubisoft, notamment, bah, de prélever de mes données de jeu et pour voir, genre, ah ouais, j'ai été dans tel endroit, j'ai fait cette quête dans tel sens, j'ai pas encore été visité de tel, j'ai pas fait tel succès. Ce sont aussi les succès, bon, c'est les données
après,
qui sont
exposées derrière. Là-dessus, sincèrement, je pense qu'il y aurait quand même un juste milieu. C'est ce que je comprends pas, par exemple, c'est pourquoi est-ce que, à intervalles réguliers, la console, elle fait pas un dump de ce que tu fais dans ton jeu, et elle l'envoie, tu vois, en one shot. Et par exemple, je sais pas, une fois toutes les semaines, tu vois, parce que tu joues à Assassin's Creed Valhalla, le jeu, il est intégralement installé sur ton disque, en local.
Ouais.
Donc contrairement à par exemple un Elite Dangerous où t'as quand même une simulation qui tourne derrière pour simuler plein de trucs et faire tenir une économie, etc. Là, je veux dire, c'est une aventure solo de base, donc que tu sois connecté au serveur, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, en plus quand t'es dans Valhalla, t'as pas des panneaux publicitaires le long du trajet comme tu pourrais avoir sur un circuit de Formule 1 qui serait, tu vois, tenu par des régies, etc. et qui pourrait changer à intervalles réguliers. Je veux dire, ça n'a aucun sens. C'est uniquement de la métrique pour les devs. Et je ne comprends pas qu'effectivement, pour des grands jeux solo comme ça, avec des campagnes sur 35, 45, 50 heures, on s'emmerde à avoir une console connectée H24 à Internet, en fait. Pour moi,
c'est l'extraction de données. C'est tout, hein.
Oui, mais en fait, ce que je veux dire, je suis pas contre l'extraction de données,
Sensu, tu vois.
C'est-à-dire que voilà, en fait, plutôt que de streamer ton extraction de données, moi, ça me dérangerait pas que la console, elle te dise, bah, toutes les semaines, en fait, à 2h du matin, je m'allume toute seule et je fais un dump des logs de jeux.
Le truc, c'est que c'est le Always Connected, ça a été aussi une technologie qui a sauvé beaucoup, une grosse partie de jeux vidéo contre le piratage.
Mais c'était le piratage, voilà, je voulais venir à ça, c'est que initialement c'était
juste
contre le piratage.
Aujourd'hui, hein, s'il n'y avait pas ça, on va pas se mentir. On était tous des nouveaux et les DRM et les machins, mais s'il n'y avait pas eu ça, Steam et les clients propriétaires. Et
enfin, maintenant que t'es dans un. Ouais, mais maintenant que t'es dans un tunnel, tu vois, que en fait t'es sur une plateforme et t'es prisonnier de cette plateforme, genre. Assassin's Creed, les mecs qui ont acheté la PS5 Digital Edition, c'est-à-dire que le jeu, ils l'ont acheté sur le le PS Store. Donc en fait, il y a plus besoin d'avoir cette connexion permanente pour lutter contre le piratage ou le cheat ou quoi que ce soit, puisque de toute façon, de bout en bout, t'es sur la plateforme, tu vois. Donc moi, je pense que ça sera intéressant quand même de voir si à un moment donné, il va pas falloir légiférer pour parce que là, en fait, c'est le Far West, tout le monde fait ce qu'il veut, tu vois. Le RGPD, c'est quand même un truc qui a permis déjà de commencer à faire comprendre aux gens que attention, vos données, faut pas non plus les donner n'importe comment à n'importe qui. Ça serait peut-être intéressant de voir comment ça va être, comment ces consoles connectées vont être perçues au niveau de la législation, parce qu'en fait, mine de rien. Ça crée aussi une fracture numérique, quoi. Ça veut dire que tu vois, je parlais hier avec Ghislain de Studio 404 qui me disait qu'il allait avoir la fibre et que donc ça allait changer sa vie parce que lui pour télécharger Call of Duty juste Warzone il lui faut 2 jours et demi, tu vois.
Oui, bah, nous aussi hein. Tout le monde quand tu dois télécharger 300 gigas de toute façon.
Ah bah non, moi 300 gigas. Non mais tu vois, enfin voilà, quand oui. nous ici on a la fibre, en fait on se pose même pas la question, tu vois. Lui là, sa connexion c'était du 8 mégabits. Ça veut dire qu'il avait moins de 1 mégaoctet par seconde. Enfin c'est tu fais rien avec ça.
C'est pour ça que les nouvelles apps des consoles te permettent de littéralement gérer tes téléchargements de consoles à distance depuis ton smartphone, quoi, pour vraiment lancer la journée.
Mais en fait le tout connecté ça va renforcer encore plus les inégalités tu vois sur le territoire entre ceux qui ont accès à des connexions très haut débit et les autres et,
parce que le tout connecté c'est pas une question de bande passante à ce moment-là quand ils viennent te prendre tes informations ça prend pas de la bande passante.
C'est quelques mégaoctets
voilà c'est tant que t'as une connexion
oui non mais ce que je veux dire c'est que non mais ce que je veux dire c'est que aujourd'hui nous, tu vois, on est adultes, on est dans nos logements, on a nos abonnements, etc. C'est pas un problème pour nous. Mais je me dis, un gamin de 16 piges qu'on envoie chez ses grands-parents le mois de juillet, tu vois, qui se dit, bon, bah, je vais prendre la PS5, au moins je pourrais jouer chez papy et mamie. Et puis, il arrive là-bas, le gamin, en fait, papy et mamie, ils ont une connexion de merde ou ils ont pas de connexion du tout. En fait, ta console, c'est un presse-papier, tu vois. Alors, dans le cas de la PS5, c'est une table basse.
Là, en fait, un téléphone portable et une manette suffisent hein, maintenant, avec le Game Pass Ultimate et le xCloud.
Mmh. Oui, mais enfin, pareil, oui, mais il faut des connexions que tu n'as pas partout.
Bah, il faut des connexions. Imagine que le gamin, il va, du coup, il va chez papier et mamie dans le Vercors, dans un endroit, ça capte pas.
De toute façon, il a cherché la merde de
Wattitech. Ouais, quitte à pas avoir de connexion, autant avoir juste une petite manette plutôt qu'une PS5 qui pèse 2 tonnes, quoi.
Tu sais que tu vas faire pipi dans le ruisseau et caca au fond du jardin, quoi qu'il arrive, hein, donc si
ou alors tu.
Jeune, ouais. Bon, écoute.
Ouais, l'âme, depuis que t'es freelance, on dirait tu réponds comme moi, là, c'est incroyable.
Je suis pas freelance,
mais ça va arriver. Ça va arriver, mon ami.
Ou alors, si tu vas chez Papy Mamie, il y a une solution, c'est la NES portable dans un Raspberry Pi que vous faites grâce au blog de Daz. Voilà.
Oui, tout à fait. Non, mais voilà, en fait moi, je me mets vraiment à la place de ces gamins-là parce que j'ai été ce gamin-là qui prenait ma Mega Drive ou ma Super NES quand j'allais en vacances chez les tontons, les tatas, les machins, où on se fait chier toute la journée où il n'y a rien, tu vois. Et je me dis, bah, en fait, un gamin de 13-14 ans aujourd'hui, bah, il serait bien baisé avec sa console où déjà il lui faut un écran HD et une connexion au débit pour jouer.
Mais non, parce que le gamin de 14 ans, il a la sacro-sainte Switch qui elle est connectée à internet, a les meilleurs jeux de la terre sur sa lune.
Le Deus Ex Machina, quoi.
Ben bien sûr, évidemment, parce que là, je vous entends parler tout à l'heure, moi j'ai pas de console de nouvelle génération ici, d'accord, et je ne subis rien de ce que vous vivez puisque je joue à ma Switch sans qu'elle me demande quoi que ce soit en retour.
Oui, juste par contre,
elle donne de l'amour.
Ouais, et puis en même temps, tu flippes de perdre ta sauvegarde Pokémon.
C'est vrai aussi. C'est vrai.
Oh, tu sais, est-ce que tu as un compte Switch Online?
J'ai un compte Switch Online.
Ouais. Bah, t'inquiète que ton Nintendo, il regarde comme ce que tu fais. Hein. Ouais,
non, mais finalement. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que ma console, elle est quasiment jamais connectée à Internet. Mais genre, jamais. Et c'est moi qui décide de la connecter quand je veux aller sur le store, sinon elle ne l'est pas. Enfin, elle n'est jamais.
Et bah, justement, là-dessus, en fait, j'ai pas regardé pour Nintendo, mais sur Sony, ça se passe comme ça. C'est marqué que dans les données que la console va prélever, donc qui sont pas liées aux données de jeu, etc., c'est si vous êtes pas connecté à Internet, en fait, elle va quand même garder en mémoire ces données-là. Et dès que vous êtes connecté, genre peut-être un mois plus tard, pouf, elle va tout envoyer en ligne.
Voilà, bah c'est ça.
Bah voilà, bah donc c'est, voilà. Donc elle fait ce que je demande, en fait.
Oui, mais pas pour les jeux qui demandent à être connecté en permanence. Mais sinon, elle sait le faire.
Ouais, du coup, la question que j'ai, c'est comment tu gères ? Bah non, mais en fait, je suis con, je réponds tout seul à ma question. C'est pour ça que j'ai détesté NBA 2K sur Switch, en fait.
Ah.
c'est que dès qu'on mettait la console en pause, le jeu se déconnectait du...
Eh oui, c'est trop chiant.
Ouais, donc en fait, ça veut dire quand même que, tu vois, Nintendo, malgré toutes les politiques qu'ils peuvent avoir sur leur plateforme, ils forcent pas les éditeurs à se conformer à leurs règles, ce qui me semble un peu chelou, tu vois. C'est-à-dire que si tu profites de la clientèle qui a une Switch, en tant qu'éditeur de jeu, normalement, tu dois te plier quand même aux conditions de la plateforme sur laquelle tu fais tourner ton jeu. Et dans le cas de Nintendo et de Visual Concept, bah, c'est ce qui s'est passé, ça allait dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça n'avait pas de sens. Tu avais une console portable, tu jouais un jeu de basket de 44 cartons de 12 minutes, donc 48 minutes de jeu. Si jamais tu éteins la console parce que tu sors de ton métro, par exemple, quand tu reprends, tu te fais shooter à la page d'accueil en mode connecte-toi à Internet. Enfin, tu vois, c'est antithétique pour une console portable.
Ouais, mais là, du coup, je vois un peu le sujet. Mais...
Oui, mais en fait, ça bousille l'expérience. En fait, ça reste, tu vois, cette histoire du tout connecté. C'est pas ça peut pas s'appliquer dans tous les cas de figure, tu vois. Donc je trouve ça bien que Nintendo soit un petit peu à rebours là-dessus, mais parce qu'en fait ils ont juste une console portable. Je pense que demain Nintendo ils te ressortent une nouvelle GameCube branchée sous la télé toute la journée, je pense qu'ils rentrent ils sautent à pieds joints dans le tout connecté permanent, quoi, tu vois.
Ouais, après c'est pas sûr, c'est la Switch, tu peux la laisser sur son dock tout le temps, mais il y a même pas de prise internet dessus, donc soit tu la connectes au Wi-Fi, soit bah, tu la connectes pas au Wi-Fi et ta vie, elle est pareille, hein, je t'assure, ça change rien à ta vie. Elle est identique. Tu joues au même jeu, on ne te demande rien. Voilà, c'est tout pareil.
Donc,
c'est au choix, en tout cas à la discrétion de tous, ça dépend ce qu'on en fait. Et c'est rigolo de voir que bah, c'est une console portable, plutôt un support mobile qui aujourd'hui... tendance à être tout connecté, justement, le support mobile. C'est de là nous viennent ces traditions sur ces consoles-là, que vient le... Alors, est-ce que c'est un manque d'innovation ou est-ce que c'est la protection totale de vos données ?
Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que la protection des données, fondamentalement, ils s'en tapent, Nintendo.
Je pense un peu. Est-ce qu'il faut rire ou est-ce qu'il faut pleurer ? Enfin, en tout cas, merci beaucoup, Chloé, d'avoir lu toutes ces conditions pour nous et de tenir, évidemment, informé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on laisse couler de toute façon en grande partie, mais si ça compte pour vous, eh bien, les consoles de nouvelle génération sont pas faites pour vous et c'est pas prêt de s'arranger, croyez-moi. Ça va aller de mal en pis, si je puis me permettre. On va marquer la première pause dans ce quête latérale. Et j'aimerais vous parler d'un truc sur lequel je suis tombé. Est-ce que vous avez entendu parler de la société OpenAI et de leur intelligence artificielle qui s'appelle GPT-3. Tout à fait. Vous avez probablement déjà entendu parler de
ça. On va faire le prochain trajectoire est dessus.
Ah ouais?
Ouais, on va faire avec une spécialiste du langage.
Mais c'est vraiment formidable. Mais cette Avengers Game, ce qualité.
Le QCU.
Est vraiment formidable. Eh bien, sachez que cette intelligence artificielle est donc reconnue pour, sur quelques indications, créer des programmes, des pages internet, des discours, des dialogues, et même des jeux vidéo simples à elle, toute seule. Tu lui dis, fais-moi un jeu qui ressemble à Tetris, elle est capable de te faire un Tetris. Voilà, juste en lui donnant ça comme information. C'est quelque chose de relativement prodigieux et je voulais vous poser juste une question simple. Est-ce que vous seriez prêt à jouer à des jeux vidéo programmés par des intelligences artificielles au jour d'aujourd'hui ?
Moi, j'aimerais bien.
T'aimerais bien tester là ?
Ouais, en fait, je crois très fort au potentiel de... Tu sais, dans le milieu de l'art actuellement, il y a depuis quelques années... Tout le monde est super excité par les intelligences artificielles et t'as les premières toiles numériques ou photos manipulées ou création de zéro ou chansons faites par des intelligences artificielles qui des fois se vendent très très cher. Et un peu comme on l'a découvert notamment avec le Go, avec AlphaGo qui était la fameuse intelligence artificielle qui a défrayé la chronique, leur manière de penser, en fait, elles peuvent singer évidemment... la manière de penser, la manière de créer humaine, mais elles peuvent aussi prendre des chemins qui sont les leurs et qui sont pas des manières humaines et qui sont hyper intéressantes. Ce qui a notamment révolutionné le Go. Et dans l'art, en fait, les gens sont en train de se poser des questions sur ce que c'est qu'une harmonie mélodique ou ce que c'est que, je sais pas moi, des proportions, des manières de représenter. C'est hyper intéressant. Donc dans le jeu vidéo, je dis, on va pas entrer dans le débat de est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer le talent de l'homme, etc., etc. Mais je pense que l'intelligence artificielle, qui pour l'instant va surtout servir à remplir des open world, on en parlera avec les open world trop grands, va, à mon avis, te permettre d'avoir des approches que tu n'aurais peut-être pas imaginées. Des idées de game design, des règles, des comportements, que je trouve assez excitants perso.
Ah bah c'est marrant, toi, ça. En tant que créateur de jeux vidéo, alors, tu aimerais te laisser faire ton jeu par une intelligence artificielle ?
Non. En fait, pour expliquer ça, c'est un peu comme comparer Morrowind et Daggerfall ou Morrowind et No Man's Sky. En fait, No Man's Sky, vous avez 1 milliard de planètes vachement diversifiées entre guillemets, procédurales, donc générées par un algorithme. Et en fait, on s'y fait chier globalement. Et pourquoi on s'y fait chier ? Le jeu a des défauts, bien sûr, mais en fait, ce qui est excitant dans Morrowind, c'est quand tu as un caillou par terre, il a été posé par un humain.
Ouais, mais je crois que l'âme, il parle pas de ça, Fibre, en fait.
Non, ouais, d'accord.
Lui, il parle plus de la trame du jeu, en fait.
Ouais, par extension.
C'est le truc le moins intéressant.
Moi, par extension, je pense qu'on joue aussi au jeu et les jeux nous touchent parce qu'ils ont été faits par des humains. Et il y a le côté gadget ou le côté nouveauté, tiens, ça va être cool. Et effectivement, c'est vrai que factuellement sur le marché de l'art, les œuvres faites par des intelligences artificielles ont connu un pic, mais en fait l'expérience humaine pour moi est faible, hein. C'est la position que j'ai, mais on verra ce que nous dira le futur.
Moi je me permets de prendre la parole tel un flibustier. En fait, je suis à l'inverse de l'âme. Moi, j'aurais peur de tomber dans un truc trop formaté, parce que tes IA, elles répondent quand même à des archétypes et des paradigmes qui sont implantés.
C'est
vrai, tu vois.
C'est pour ça que je l'ai redit. Les IA de remplissage, donc pour fibre. Et les
Non, mais je parle pas.
Singer les humains au début, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est au moment où les IA vont commencer à créer.
Ouais, mais en fait, il y a aucun studio de dev qui va risquer de foutre un triple A dans les mains d'une intelligence artificielle s'il a zéro contrôle dessus.
On prend comme un humain, Daz.
Mais non, mais parce que regarde ce qui s'est passé quand tu donnes, tu sais, quand tu utilises vraiment la métrique pour fine-tuner par exemple un scénario, une intrigue ou quoi au caisse, c'est ce que Netflix targué d'avoir fait avec House of Cards, d'avoir pris tous les goûts de tous ses utilisateurs, de les avoir passés à la moulinette et d'avoir dit ok, il faut du thriller, du sexe, de l'espionnage. C'est la même chose en fait. Une intelligence artificielle, elle s'appuie aussi sur la data.
Non, dans AlphaGo, l'intelligence artificielle, elle avait des coups qui n'avaient jamais été vus et une manière de réfléchir qui n'était pas humaine.
Oui, mais ça effectivement, c'est parce que t'es
sur la data quand même.
C'est pour ça que je reviens sur le fait.
Bah oui, parce que AlphaGo, il a
passé par une intelligence artificielle qui, comme les intelligences artificielles actuelles, qui se sortent des résumés de matchs de foot à la seconde après le match, parce qu'en fait, elles reprennent des trucs, des éléments de langage avec des stats pour en faire un truc. C'est pas intéressant, ça. C'est pas de la création, en fait. Ça, c'est du crunching de data.
Oui, mais en fait, AlphaGo, pour avoir ces nouvelles façons de jouer, il a crunché juste des millions de parties, tu vois.
C'est pour ça que ce que je vous dis, c'est que l'intelligence artificielle qui aujourd'hui te remplit des univers ou qui te crée des personnages au kilomètre, ou l'intelligence artificielle qui singe les humains, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui va m'intéresser, c'est quand elle va commencer à créer des trucs de son propre chef, avec ses propres
Est-ce que t'as vraiment là je vais agiter le spectre, est-ce que t'as vraiment envie qu'on arrive au moment où on a des intelligences artificielles qui sont vraiment intelligentes? Moi, j'ai
à quoi
envie.
Tu fais référence, quoi,
Non, mais c'est le fantasme Terminator, quoi.
Un point d'inflexion.
Arrête, un faux problème. Elles sont toujours faites pour ce pourquoi elles sont programmées, les intelligences artificielles. Elles sont là pour résoudre des problèmes donnés. Donc,
Oui, voilà, mais tu vois, elles vont répondre. Enfin, je pense que dans le jeu vidéo, elles répondent à des questions qui sont déjà là. Mais tu vois, je ne vois pas pour le moment, dans un avenir proche, le moment où tu diras intelligence artificielle, fais-moi un RPG. Et boum, elle va te sortir, elle va te sortir un jeu de A à Z, un truc que t'as jamais vu. Enfin, en fait, ou alors elle va se baser sur ce qui est déjà existant. Elle va secouer tout ça, dire ok, donc je pense que ça marche bien. Et elle va te sortir quelque chose d'assez générique au final.
Finalement, imaginez vous rentrez dans une intelligence artificielle, la totalité des données réunies sur les précédents jeux Elder Scrolls. Pensez pas qu'elle peut vous sortir le prochain en se basant sur tous les autres.
Tu vas pas confier à une IA des générateur de quêtes, par exemple.
Mais pourquoi?
Ah bah si.
Ah bah non, mais elles vont être vachement mal écrites.
Alors, justement,
là, comme une image du 21e siècle, oui. Oh là.
Ouais, là on parle de GPT-3 qui est capable réellement de générer des nouvelles entières.
Ah, si, ouais, bien sûr.
Basé sur des nouvelles d'auteurs, tu vois.
Et mais c'est la mort de l'art, ce que vous.
Ah là là.
La mort de l'art.
C'est à s'y méprendre. Hein. Je te donne une nouvelle écrite par l'intelligence artificielle et une nouvelle écrite, je sais pas, par Musso, et tu lui demandes de singer Musso. Elle est capable de te sortir un truc, tu sais.
Pourquoi
pas
si. On aurait le monopole de l'art, Chloé.
Oui, bah si justement, c'est quand même différent. J'en ai la conviction.
Évidemment, mais j'en l'espère. Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois, ça agite cette peur hyper viscérale qu'il y a un truc qui va arriver au-dessus de nous parce qu'on a tous vécu, grandi, été éduqué dans le fait qu'on est au sommet de la chaîne et qu'il y a un truc qui va arriver au-dessus de nous et qui crée une peur en fait, tu vois. Et quand tu dis c'est la mort de l'art, c'est-à-dire c'est la mort de l'art humain, non. C'est pas la mort de l'art humain, mais un truc énorme qui est en train d'arriver, qui est beaucoup plus grand que tout ça en fait, et qui d'ailleurs ne pense pas à mal ou à bien. Mais c'est un point d'inflexion majeur. Donc évidemment, le jeu vidéo c'est qu'un tout petit point de tout ça. Mais si un jour, tout comme dans les films de science-fiction, une IA, elle te permettait de créer des rêves ou, comme l'a montré un peu Elon Musk avec sa dernière start-up, changer ton moral, etc. Ou comme on l'a vu dans Her, où en fait elle va commencer à expérimenter l'amour de manière exponentielle, ce qui est humainement pas possible. Bah, je trouve ça assez génial. C'est évidemment flippant, mais j'ai l'impression qu'on le prend toujours contre nous parce qu'on est tellement égocentré sur l'humain que forcément une intelligence artificielle qui est plus intelligente, elle va être menaçante. Une intelligence artificielle qui est plus compétente, elle va tuer des emplois. Alors que c'est, je trouve ça.
Ah, moi je suis pas du tout sur ce truc-là. Moi, je pense simplement que ton intelligence artificielle, elle est artificielle, donc elle a forcément des archétypes et des machins. Et en fait, juste effectivement, moi j'ai plutôt peur que ton jeu ça soit un truc ultra générique. C'est déjà, moi je trouve le cas avec des jeux qui sont faits par des humains, tu vois. Donc en termes de sensibilité, machin, etc. Je pense que tu demandes à une intelligence artificielle de te faire un Assassin's Creed. Je peux d'ores et déjà te donner la storyline de A à Z en fait.
Assassin's Creed. Mais si tu demandes à une intelligence artificielle de te faire un jeu from scratch,
Mais tu te rends bien compte que dans le monde du jeu vidéo, tu peux pas avoir des décideurs qui disent freestyle.
Ce sera même pas des décideurs, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui se feront des jeux custom made à l'envie dans 10, 15 ans, 20 ans.
Ah, en solo, chacun son jeu, alors d'accord, là, c'est différent.
Voilà, tout comme dans les films de science-fiction, okay, tu disais, je veux avoir tel souvenir ou je veux avoir tel rêve sur
ça. Ça marche pas, l'âme, en fait, ça, parce que toi, le jeu, c'est une expérience collective. C'est-à-dire que, par exemple, des succès de Dark Souls.
Mais pourquoi c'est une expérience collective?
Je te le dis parce que, un jeu comme Dark Souls, par exemple, en fait, le jeu était très dur et du coup, des communautés immenses se sont formées sur des forums d'entraide et ils ont, surtout, si on se refait le match, c'est-à-dire qu'ils ont, on a tous vécu la même expérience de jeu et on peut se dire ah, à ce moment-là tu as vécu ça, c'était quoi, tu vois, on a vu le même match de foot en quelque sorte. Si chacun a son match de foot, parce qu'on pourrait imaginer aussi des IA qui font des matchs de foot passionnants mais virtuels ou
un million de personnes de jouer au même jeu créé par une IA. En fait, oui. Si tu dis à une IA je veux une expérience custom et que tu la partages à tout le monde, elle est dispo, elle est réplicable en fait.
Tout à fait.
T'as un seed.
Je soutiens quand même que en fait ce qu'on cherche quand on regarde un tableau ou un film, c'est non pas la nature, le fond du film, mais l'humain qu'il a créé derrière, parce que on veut se retrouver nous-mêmes en fait.
Bien sûr, mais ce que tu dis en fait, on pourrait le prendre complètement à l'inverse, c'est que l'intérêt du jeu vidéo, un des énormes intérêts du jeu vidéo qui a été une critique justement des autres arts qui étaient très condescendants, c'était de dire le jeu vidéo c'est débile parce que chacun fait un peu ce qu'il veut et en fait du coup on respecte pas, je sais pas, le fameux hashtag la vision de l'auteur ou le scénario.
Oui, je comprends.
Parce que t'as fait Breath of the Wild dans un ordre différent, toi t'as fait ce jeu. En fait, t'as pas vu cet endroit et toi t'as pas fait ça. Toi, t'as décidé d'être neutral, chaotique. Toi, t'as décidé d'écraser des gens dans GTA. Et en fait, la beauté du jeu, c'était justement la personnalisation des expériences jusqu'à un certain point, parce qu'il y a aussi une forme d'illusion. Mais c'est ce qui a rendu le jeu vidéo incroyable, c'est d'avoir un terrain en même temps commun pour dire on a tous joué à GTA, on a tous joué à Mario, et en même temps personnel pour dire ah mais toi tu joues comme ça à GTA, et c'était génial. Et à aucun moment on s'est dit, enfin, ce que tu me dis Fibre, c'est que c'est une expérience commune, mais enfin, l'intelligence artificielle ne tuera pas cette expérience commune si tu le veux pas, puisque tu peux faire littéralement ce que tu veux. Ouais. Et puis le jeu vidéo est justement le premier art à sortir de sortir de cette boîte, quoi, de ce carcan qui est, on lit exactement tous les mêmes mots au même moment, au même machin. On
mais en fait, enfin, c'est vachement intéressant ce que tu dis quand même, parce que ça montre aussi les différents traits de personnalité. Pour moi, de l'âme, t'es dans Jurassic Park, t'es le mec qui veut donner plus d'intelligence au Vélociraptor, tu vois. c'est exactement ouais,
j'ai
ça. Tu vois.
J'ai dépensé sans compter.
Ouais, vous voyez ça forcément comme un problème. Bon, là, pour le moment, on en est encore au stade, on va dire, de la naissance un peu de l'ordinateur de bureau avec ses intelligences artificielles. Elles remplissent des fonctions comme créer des textes, créer des images à partir d'une idée ou
De faire des voix.
Voilà, faire des voix, reproduire des voix. Univers, ce sont des trucs relativement simples. Le jeu vidéo reste quelque chose de plus en plus compliqué, donc on n'en est pas là. Mais évidemment, enfin, on constate une augmentation exponentielle hein, des progrès sur les IA. Donc ça pourrait arriver évidemment plus vite qu'on ne le pense. On verra évidemment si notre monde next-gen sera rempli du premier jeu dont le scénario aura été créé par une intelligence artificielle. Si ça se trouve, vous y avez déjà joué et vous ne le savez même pas.